soir, le gouverneur du Nord Kivu alerte l'état-major des FARDC sur la menace d'une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon dans sa province. Il souligne que les dernières attaques risquent de faire croire qu'il s'agit des groupes armés locaux, alors que c'est une grande guerre qui veut commencer. Et Julien Paloukou fait observer que les hommes armés qui ont récemment attaqué, notamment à Kassindi et Beni, résistent mieux à la riposte de l'armée que les groupes armés locaux. Comment analyser cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 28 juin 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Grégoire Kirotsongo, député national de l'opposition, élu de la ville de Beni au Nord Kivu. Il est secrétaire général du RCD KML. Monsieur Kiro, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Jason Sturm, directeur du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Il est ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Bonsoir Jason.
Bonsoir Kelly.
Merci de nous suivre à Beni au Nord Kivu. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
À recurrence des attaques d'hommes armés dans le Grand Nord, le gouverneur Julien Paloukou alerte sur ce qu'il qualifie d'une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon. Selon le gouverneur du Nord Kivu, le mode opératoire au cours des dernières attaques des hommes armés à Kabasha, Kassindi et à Beniville dépasse les simples attaques des groupes armés locaux. Il appelle l'état-major général des FARDC à se focaliser sur cette question. Le gouverneur Julien Paloukou est joint par Papi Martial Moukeba.
La situation de la partie nord de la province du Nord Kivu devient désormais très très inquiétante parce que les attaques à répétition dépassent les simples attaques des Maïmaï que nous connaissons. C'est parce que lorsqu'ils attaquent, ils ne résistent pas à la puissance des feux 30-40 minutes. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les présumés Maïmaï sont en train de résister et ils planifient des attaques sur 3, 4, 5 agglomérations dans l'espace des mois. Ce qui dénote un approvisionnement en munitions et en armes lourdes. Or, les groupes Maïmaï ne sont pas capables de le faire dans beaucoup d'agglomérations au même moment. Voilà pourquoi je lance cette alerte particulièrement à l'état-major des forces armées pour que l'état-major focalise ses stratégies sur une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon parce que nous risquons de croire qu'il s'agit des groupes armés locaux alors qu'il s'agit d'une grande guerre qui va commencer dans la partie nord de la province.
Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous allez alerter l'armée sur une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon. Quels sont les éléments qui vous poussent à dire qu'une grande guerre veut commencer dans la province du Nord Kivu?
Oui, je voudrais d'abord saluer mes amis de tous les jours de ce cadre de réflexion de haut niveau qui est suivi à travers le monde, mais également vous tous journalistes de la radio Okapi. En fait, ma petite expérience de ce grand mandat m'a poussé à dire que la situation à Beni est alarmante parce que je me rappelle de l'histoire récente. Les CNDP de Laurent Kunda, les M23 de Bosco Ntaganda ont commencé par des concepts comme insurrection, rébellion, défection, mais finalement, ils ont culminé par des guerres atroces. Et maintenant, c'est Beni. Alors, pourquoi Beni fait peur? Parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques éléments. Comme vous, je l'ai rappelé. D'abord, il y a des attaques dans plusieurs agglomérations. Il y a Kassindi, il y a Kalaou, il y a Kabasha, il y a Mavivi. Il y a un deuxième élément, la puissance des feux, parfois supérieure à celle de nos forces armées. Il y a un troisième élément, c'est la tactique de contournement de nos positions. Ce qui démontre qu'il s'agit de forces qui sont bien aguerries. Il y a un quatrième élément, c'est la résistance pendant plusieurs heures, ce qui laisse penser à une logistique organisée en termes d'armes et de munitions. Et donc tout cela montre qu'il y a beaucoup d'hommes. Et s'il y a beaucoup d'hommes, alors ça m'a laissé penser à quelques groupes. Le premier groupe, pour moi, il s'agirait des Maïmaï qui sont dans la région et qui constitueraient une sorte d'iceberg visible. Le deuxième élément auquel j'ai pensé, ce sont les démobilisés. Je dois rappeler que depuis une année, la province Nord Kivu a reçu près de 2300 démobilisés. Dans la partie Massis, Rutshuru, Goma et Nyiragongo, il y a près de 2000 démobilisés que nous avons reçus. Et dans la partie Nord, près de 300 démobilisés. Et même s'ils ont reçu des kits de réinsertion, ces démobilisés sont arrivés dans la partie Sud et dans la partie Nord et ils ont disparu dans la nature. Ceux qui connaissent Beni, Rutshuru, Masisi et Walikale, ils savent que après avoir reçu ces kits de démobilisation, ils ont disparu. Et à Beni, les gens peuvent témoigner que après être arrivés à Beni, parce qu'ils devaient être réinsérés dans la vie, ils sont partis, on ne sait dans quelle destination. Alors le troisième groupe auquel j'ai pensé, ce sont les ex-mouvements, les ex-M23, qui sont en Ouganda, qui sont en Rwanda. Vous vous rappelez, lorsque j'avais dénoncé le 14 janvier dernier, l'Ouganda avait nié, mais par la suite, l'Ouganda a accepté qu'il a intercepté 101 éléments dans la ville d'Embarara, mais que 40 éléments se seraient volatilisés. Se seraient volatilisés vers où? On ne sait pas. Et entre-temps, il y a d'autres éléments qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, dont des ex-colonels de l'ancienne rébellion de Beni, qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda et qui sont connus. Et le quatrième élément, c'est alors la traditionnelle ADF qui est connue. Voilà pourquoi j'ai fait la sonnette d'alarme, parce que ces groupes peuvent se couvrir par l'appellation Maïmaï pour se faire minimiser par la hiérarchie militaire et ainsi surprendre nos positions, comme c'est le cas maintenant. L'objectif
pour moi,
c'est quoi?
Et donc, vous estimez, monsieur le gouverneur, que ce sont des étrangers qui veulent attaquer la RDC, puisque vous estimez que le Maïmaï ne peuvent pas résister au FRDC?
Moi, j'estime que dans la petite expérience que j'ai de la gestion de la province, j'ai vu les Maïmaï à Masisi, à Rutshuru, à Walikale, les Nyatura, un peu partout. Ils n'ont jamais opposé une résistance de 30, 40, 50 minutes. Ce sont les groupes organisés qui l'ont fait. Voilà pourquoi j'ai dit, étant donné qu'à Beni, nous commençons à voir des groupes organisés qui résistent pendant une heure, deux heures, qui prennent l'initiative de venir attaquer les positions militaires, eh bien, ça doit interpeller l'état-major, parce que les autres rébellions auxquelles j'ai assisté ont commencé par ce genre d'action pour venir tester la puissance de feu de nos forces armées. C'est-à-dire, on vient voir quelle est la capacité des armes de certaines positions pour organiser maintenant une grande offensive. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est pas pour rien que j'ai fait ce genre d'alerte. C'est pas parce que je me réveille un matin et que je commence à parler à la radio au Capi parce que je suis seulement de bonne ou de mauvaise humeur.
Alors, une telle alerte alarmée sur une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon, la question est quand même sensible, c'est quand même une grande question. Pourquoi la mettre sur la place publique au lieu d'en parler dans vos réunions de sécurité?
Vous savez, l'état-major gère l'ensemble de la République. Il y a les questions avec l'Angola, la frontière avec la Centrafrique, la question de Mbororo dans les bases où elle est, dans les routes où elle est, la question des FRPI en Ituri, la question des F de l'air au nord au sud Kivu, la question des pygmées dans les Tanganyika, la question de la guerre entre Riek Machar et Salva Kiir avec les gens qui viennent chez nous. Donc toutes ces questions-là peuvent laisser à ce que l'état-major se focalise sur l'ensemble. Et moi, comme gouverneur, je dois me battre pour dire, bien que l'état-major s'occupe sur ce genre de questions, attention, il y a également le Nord Kivu. C'est de mon devoir en tant que gouverneur de dire...
Vous ne pouvez pas parler dans vos réunions de sécurité. Est-ce qu'on ne vous écoute pas lorsque vous tirez la sonnette d'alarme? Vous avez préféré mettre ça sur la place publique pour être entendu?
Non, vous savez, nous sommes dans la révolution de la modernité. Aujourd'hui, vous parlez des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, nous devons nous conformer aujourd'hui à ce genre de technologies pour permettre effectivement de moderniser nos manières de devoir administrer. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous faisons.
Merci, monsieur le gouverneur Grégoire Kirotongo. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, élu de la ville de Beni au Nord Kivu. Vous êtes secrétaire général du RCD KML. Comment vous analysez les déclarations du gouverneur Julien Paluku?
Je vous remercie, madame. Je dis d'abord bonjour à tous mes co-débatteurs ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je crois que l'argumentaire développé par le gouverneur de province, il est assez vraisemblable, compte tenu de la puissance de feu des assaillants, ainsi que du caractère structuré de leurs attaques. On peut logiquement, valablement, se poser des questions si il s'agit effectivement seulement des maï-maï. Donc, je crois que ça, c'est une vraisemblance. Mais nous devons aussi insister sur l'aspect logistique. Le fait qu'on parle de logistique importante, ça nous fait penser à un appui extérieur en ce qui concerne les attaques de dernièrement. On ne peut pas ne pas penser aux Ougandais. Vous vous rappelez qu'il y a un certain temps, il y a même des éléments de l'armée ougandaise régulière qui ont été attaqués, surpris, même abattus vers Kassindi. Donc, tous ces éléments font que on peut penser effectivement qu'il s'agirait d'une attaque bien structurée, organisée à partir de l'étranger. Mais cela ne peut pas m'empêcher, moi, en tant qu'élu de Beni, de me poser la question sur l'évasion massive qui a eu lieu à la prison de Beni Kangwai il y a quelques semaines. Parce qu'on ne peut pas ne pas considérer que cela a été aussi l'élément déclencheur. Donc on peut parler d'une nouvelle rébellion, je veux bien, mais il y a aussi cet élément. N'oublions pas qu'il y a quand même plus de 936 prisonniers qui ont pris la poudre d'escampette, parmi lesquels de dangereux terroristes de l'EDF, parmi lesquels de dangereux criminels. On ne peut pas ne pas tenir compte de cela. Quelle est la relation entre cette évasion massive et les derniers événements de Beni, de Kassindi, de Kabasha, de Kalaou, etc. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a quand même une relation entre ces éléments-là. Et ce qui me surprend en ce qui concerne cet élément fondateur, parce qu'il faut l'appeler ainsi, en ce qui concerne ces évasions, ce qui me surprend, c'est que jusque-là, on ne voit aucune enquête menée, on ne voit aucune enquête, on ne voit aucune sanction tomber. C'est comme si nous sommes dans un fait divers.
L'enquête est peut-être en cours.
L'enquête est peut-être en cours, mais écoutez, à partir du moment où le gouverneur est capable de sonner la sonnette d'alarme à propos d'une nouvelle rébellion, c'est quand même assez grave. Donc si les enquêtes sont en cours, il peut aussi nous informer si les enquêtes sont en cours ou pas. Donc c'est tout cela qui me fait penser à une défaillance de notre système de sécurité, de manière générale, un laxisme intolérable.
C'est-à-dire que la situation sécuritaire de cette province, de la province de Lord Kivu, n'est pas bien gérée?
Pas du tout, on ne peut pas dire qu'elle est bien gérée, parce que ça fait quand même des années que ça dure. Ça dure depuis des années. Le gouverneur a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a... Il y a un risque d'une nouvelle rébellion. C'est pas la première fois qu'il le dit, mais on constate que
il n'est pas écouté.
Je ne peux pas dire s'il est écouté ou pas. En tout cas, je constate que les choses ont tendance à ne pas évoluer sur le terrain. Je rappelle quand même que le périmètre dans lequel se déroulent tous ces événements, c'est un périmètre d'à peine 60 ou 70 kilomètres carrés. Je rappelle aussi que à Beni, il y a quand même 5 généraux. Je rappelle qu'il y a 12 régiments. Ceux qui connaissent la matière militaire, je n'en fais pas partie, ils savent que 12 régiments, c'est en tout cas quelque chose comme 10 000 hommes. Donc, il y a des choses que la population voudrait bien comprendre. Et
comment on ne sait pas maîtriser cette situation?
On ne sait pas maîtriser une situation sécuritaire sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Bien sûr, on va nous parler de guerre asymétrique, d'accord, mais bon, écoutez, à malin et demi, si les autres là ils sont dans la guerre asymétrique, nous avons bien des éléments qui sont capables aussi de faire face à une guerre asymétrique. Donc il y a tous ces éléments là qui me font penser qu'il y a une question de laxisme généralisé intolérable.
Alors le gouverneur a parlé des démobilisés après avoir reçu leur kit, ont disparu dans la nature. Vous êtes élu des Béninois. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation?
Je sais qu'en ce qui concerne les démobilisés, la question a été aussi mal gérée par le gouvernement. On peut pas prendre des gens qui étaient dans d'autres provinces, essentiellement dans l'actuel Congo central et l'ancien Katanga. Ils étaient là-bas, ils ont décidé, je sais pas qui a décidé de leur démobilisation. Est-ce eux-mêmes? Est-ce le pouvoir? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils sont rentrés au Nord Kivu et la sonnette d'alarme a été tirée plusieurs fois par des élus, pas seulement de Beni, mais aussi de Butembo, de Walikale et de Massissi de partout pour dire mais c'est démobilisé, ils nous arrivent au Nord Kivu ici, ils sont pratiquement délaissés, ils sont démunis et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ils ont été démobilisés, après on leur a remis un kit d'une valeur, je crois, je n'ai plus ça en tête, mais en tout cas je n'ai pas l'impression que c'était plus de 100$. Hein. Donc quand vous prenez quelqu'un qui a passé autant d'années loin de sa famille et que vous lui remettez un kit, juste un petit kit là, il y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement du tout. Mais écoutez, moi je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ils sont démobilisés parce que je n'en connais pas beaucoup. Mais je crois que cette question a été très 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 mal gérée.
Merci Kiru Tongo, Jason Sturm. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Vous êtes ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Et quelle est votre lecture de cette déclaration du gouverneur Paluku qui demande au FRDC, à l'état-major général des FRDC, de se focaliser sur cette question de nouvelle guerre qui voudrait commencer au Nord Kivu?
Merci Kelly et bonjour à tous les auditeurs. Je pense qu'il est important d'abord de signaler que la GRLF n'a jamais cessé. Il a remis plus de 2 millions de déplacés dans les deux Kivus et plus de 80 groupes armés. Et cette prolifération des groupes armés, ce déplacement, continue depuis des années. Donc la guerre n'a jamais cessé, peut-être il y a des signes d'une nouvelle dynamique, mais il faut que d'abord on se pose la question pourquoi on n'a pas pu démanteler tous ces groupes armés, pourquoi ce déplacement continue de cette façon, parce que s'il y a une nouvelle dynamique, cette dynamique est bâtie sur ces anciens groupes armés. Alors il est vrai qu'il y a des nouveaux groupes armés qui viennent d'émerger au Nord Kivu, des nouvelles coalitions, c'est assez inquiétant, plus précisément dans les territoires de Lubero et Beni. On constate aussi qu'il y a des contacts entre les différents chefs de guerre, par exemple le Bwambale Kakolele, le Tom Chibangu, Sikouli La Fontaine, il y a des incursions de l'M23, donc il y a de quoi être inquiet au Nord Kivu, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il serait trop facile de blâmer une nébuleuse étrangère pour tout cela. Le gouvernement certainement aussi un part de responsabilité. D'abord, il faut signaler que les grandes initiatives de pacification sont en presque tous cessées. Vous avez parlé de démobiliser, par exemple, le processus de démobilisation est à un point mort depuis plusieurs années maintenant. Même chose au niveau des opérations militaires, c'est vrai que les opérations Scola 1 et Scola 2 continuent, mais comme l'honorable Kiro vient de le signaler, l'armée nationale compte plus de 120 000 hommes. Et la plupart de ces groupes armés ne comptent pas plus que quelques centaines de soldats. Donc, et au niveau du bâton, et au niveau de la carotte, donc au niveau de la pacification et des opérations militaires, il y a des vrais problèmes donc aux côtés du gouvernement. Finalement, je pense qu'il faut signaler que les groupes armés qui sont basés à l'est du Congo sont des animaux politiques. Ils sont très, très branchés sur l'actualité congolaise au niveau national. Si vous parlez avec eux, ils vont vous dire qu'ils sont de plus en plus motivés par la crédibilité ou le manque de crédibilité du processus électoral, par le fait que les élections ne se sont pas tenues l'année passée, par le fait qu'ils considèrent, parmi eux, il y a ceux qui considèrent que le gouvernement n'est plus légitime. Tout cela aussi a un impact sur la situation sécuritaire à l'est du Congo. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle dynamique, peut-être avec un appui étranger, mais cela ne discute pas la responsabilité de l'État congolais.
Alors, le gouverneur Julien Paluku, dans sa déclaration, souligne que les dernières attaques risquent de faire croire qu'il s'agit des groupes armés locaux, alors que c'est une grande guerre qui veut commencer. Il voit très mal, par exemple, les Maïmaï résister à la force de frappe des FRDC.
Il est tout à fait possible, comme je viens de dire, qu'il y a une main étrangère là-dedans. Par contre, la collaboration entre Kinshasa et Kigali va plutôt bien ces derniers temps, mais on peut signaler la présence des incursions des M23. Il y a plus de 6 incursions, je pense, de l'M23 dans le territoire de Rutshuru dans les mois passés, donc là, certainement aussi. Mais là, encore une fois, quelque part aussi, il faut regarder la responsabilité du gouvernement congolais. Si les anciens troupes M23 sont sur le territoire ougandais depuis 2013, donc plus de 3 ans, ils ont passé à l'étranger. On n'est pas arrivé, là certainement aussi c'est la responsabilité ougandaise, Mais le gouvernement n'est pas arrivé à démanteler ces gens-là, les traduire en justice ou les démobiliser. Cela reste comme un problème. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui vient d'être signalé. Mais dans tout cela, je pense qu'il ne faut pas seulement regarder vers l'Est, regarder vers l'étranger. Il faut aussi regarder vers l'intérieur, vers Kinshasa et vers les responsabilités du gouvernement.
Alors, lorsque vous dites qu'il faut regarder aussi vers Kinshasa, responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire quoi, Jason? C'est-à-dire que cette question n'est pas bien gérée au niveau national?
Je pense qu'il faut se poser des questions par rapport à, pas seulement au niveau du processus de démobilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes armés qui auraient été plus démobilisés il y a quelques années. Il y avait un bon programme de démobilisation mis en place en 2015 par le gouvernement national. Ils ont budgétisé 90 millions de dollars pour ce processus de démobilisation. Les bailleurs de fonds ont été d'accord, mais ils demandaient que le gouvernement fasse son part, donc qu'il donne au moins 10 millions de dollars. Alors le gouvernement n'est pas arrivé à verser ne plus que ce montant-là, et le processus s'est arrêté plus ou moins là. Ça fait partie des responsabilités, je pense, du gouvernement. Mais aussi quand on parle des groupes armés à l'Est du Congo, il y a parmi ces groupes armés des groupes qui ont des liens avec le même gouvernement. Donc, on parle, par exemple, dans le territoire de Walikale-Lubero, les NDC Renouveau. C'est un groupe, ensemble avec les Maïmaï Mazembe, qui ont eu dans le temps un soutien du gouvernement congolais. C'est documenté dans les rapports des groupes d'experts. Même ce monsieur Bwambale Kakolele, qui se trouve maintenant à l'étranger, qui a fait des annonces sur la voie de l'Amérique par rapport à son leadership dans le fameux corps du Christ, ce monsieur Kakolele était jusqu'à très récemment à Kinshasa. Il faut se poser des questions par rapport à ses activités à l'Est. Comment il était arrivé là-bas? Est-ce qu'il a vraiment fait défection du gouvernement? Est-ce qu'il a coupé totalement ses liens du gouvernement? Et donc, je pense que je ne suis pas militaire, je ne suis pas responsable de l'armée congolaise. Je suis sûr qu'il y a dans l'armée congolaise des vaillants combattants, des très bons officiers. Mais on a quand même l'impression qu'ils auraient pu mieux faire contre certains groupes armés. Et avec les autres groupes armés, ils ont carrément soutenu des autres groupes armés pour faire face aux FDLR et aux autres. Donc, je pense que tout cela, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et comme l'honorable Thiro est là, je pense qu'il serait aussi bien que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités, dans le sens que on fait très, très rarement des audits ou le travail de contrôle de l'armée nationale.
Merci, Jason. Julien Paloukou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Thierry Massagiro, j'interviens depuis Goma, au Nord Kivu. À mon avis, ce n'est pas que la guerre a commencé ou veut commencer à Beni. Le gouverneur lui-même sait très bien qu'un dispositif armé important est déployé à Beni depuis longtemps pour la traque des ADF. Et puis, il sait aussi que c'est une zone toujours tumultueuse et une zone d'opération. Je ne comprends pas le pourquoi de son alerte, surtout quand il sait que les militaires sont là et en principe, ils doivent jouer les rôles. En revanche, je pense que le gouverneur voulait plutôt faire une sortie médiatique, car ça faisait un bon temps qu'il n'a pas fait la une de l'actualité nationale et internationale. Tout ce que le PPV, c'est la paix. Au Kivu, nous sommes devenus presque tous traumatisés. Ces gens d'alerte ne font qu'empirer. Lorsque la paix reviendra au Kivu, on aura vraiment besoin de psychologues pour revenir à l'état normal.
Monsieur le gouverneur, réaction?
Oui, je pourrais dire que cet auditeur de Goma peut se fonder sur ce que j'ai dit il y a quelque temps. Vous savez, lorsque j'avais fait une alerte sur l'incursion probable des éléments du M23, il y a eu même des députés qui sont arrivés à Goma pour tenir des conférences et dire que je faisais des sorties parce que le gouvernement veut tout simplement créer des histoires pour ne pas organiser les élections. Et lorsque les élus et quelques personnes comme mon frère de Goma venaient de le dire, ont fini par dire ça, l'Ouganda a reconnu avoir intercepté les éléments en Barara. Et deux jours après, les Rwandais ont reconnu avoir intercepté une trentaine d'éléments au Rwanda. Donc je crois qu'il n'y a aucune intention pour le gouverneur de faire des sorties médiatiques. Je crois qu'il peut s'interroger sur la sortie de tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Julien Paluku est le porte-parole de tous les gouverneurs. Il n'a pas besoin de se faire connaître aujourd'hui. Donc je voudrais lui dire, pour qu'il le sache à partir de ce moment, que la guerre, lorsque j'ai fait une alerte, c'est pour la prévenir. Et mon objectif, c'est l'anticipation, pour qu'on ne se réveille pas demain en dépassant des moyens colossaux, alors qu'on aurait dû étouffer le dossier dans l'œuf et épargner de gros moyens pour m'aider, moi, gouverneur, à construire les routes, à construire les ponts, à construire les écoles, à construire les centres de santé. Parce que je sais ce que coûte une guerre. Je sais ce que coûte des munitions. Je sais ce que coûte le transport des chars. Je sais ce que coûte le transport des roquettes. Et si lui ne voit pas les routes que nous faisons à Goma avec les maigres moyens, eh bien, il peut vouloir une guerre. Moi, je sais la satisfaction qu'il y a aujourd'hui à Goma avec les routes que nous faisons. Ce sont ces moyens dont j'ai besoin et non pas les moyens à dépenser dans les roquettes qu'on achète par le gouvernement pour les dépenser à Beni.
Alors voilà, comment vous réagissez, comment vous réagissez à l'analyse de Jason qui estime que le gouvernement a une part des responsabilités dans la situation qui s'est vue aujourd'hui dans le Grand Nord?
Bon, moi je pense que un gouvernement ne peut pas vouloir voir sa population être tuée. Il peut y avoir des failles dans l'exécution ou dans l'exercice des fonctions d'un gouvernement, comme dans une famille, un parent peut avoir des failles de nourrir ses enfants ou d'exécuter une tâche, mais volontairement un parent ne peut pas vouloir voir ses enfants tomber malades ni mourir. Je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut faire, mais les failles, on ne peut pas également les nier qui peuvent exister dans l'exercice de ses fonctions. Mais le souci que nous devons avoir, c'est de voir le gouvernement en train de déployer des efforts pour rencontrer les préoccupations de la population. Et c'est là où nous devons effectivement voir. Est-ce que le gouvernement est en train de déployer les moyens pour rencontrer les préoccupations de la population? S'il n'y a aucun souci, s'il n'y a aucune possibilité de devoir résoudre les problèmes de la population, à ce moment-là, on dira ou on parlera d'une irresponsabilité du gouvernement.
Sur la question des mobilisés, M. Kiro a dénoncé aussi la mauvaise gestion de cette question par le gouvernement.
Oui, j'ai été le premier à évoquer la question des démobilisés. Le DDR3, c'est un programme qui a été conçu, qui a eu même l'appui des partenaires, mais nous devrions recevoir à l'époque 82 millions de partenaires qui n'ont jamais été débloqués à ma connaissance. Et vous savez les difficultés avec lesquelles le gouvernement a financé tous les programmes qui existent. Je crois que les responsabilités sont partagées à ce niveau. S'il y avait tous les financements qui avaient été débloqués, eh bien, ce programme ne serait pas arrivé là où il est. Je suis particulièrement d'avis que ce programme a peut-être connu des difficultés dans son exécution et qu'il faut le requalifier parce que lorsqu'on le voit dans l'exécution, on n'est pas totalement satisfait et je suis l'un de ceux qui ont évoqué des éléments critiques, évidemment, par rapport au DDR3 dans sa manière d'être exécuté.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Monsieur Kiro, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Olivier Manga, qui combat depuis Bukavu au Sud-Kivu. L'alerte du gouverneur Paluku sur la menace de la nouvelle guerre qui pointe à l'horizon dans la partie nord de sa province est une pure distraction, consistant à endormir l'opinion sur l'essentiel, qui n'est autre chose que l'organisation des élections du 6 juillet de l'année 2017 selon l'accord de la Fion Sylvestre. D'autant plus que nous ignorons que cela est la moindre stratégie du régime en place pour ainsi retarder l'organisation des élections. Les évasions de détenus, ça est là. Et donc celle récemment vécue à la prison de Kangbaï, au grand jour sans aucune intervention de nos éléments de sécurité, en est l'illustration. Le régime en place n'aboutira pas à la conclusion de l'expérience. De plus en plus, il s'occupe de ce qui devrait être au détriment de ce qui est. ils comprennent que le peuple congolais est déjà mature et conscient de son existence de par la misère à laquelle il est condamné sans précédent par ce régime. D'où de telles alertes ne captiveraient jamais l'esprit des Congolais.
Monsieur Kiro,
Je n'irai pas jusqu'à affirmer que l'alerte du gouverneur, c'est de la distraction, c'est juste une stratégie du régime pour retarder au maximum les élections. Mais je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que vient de dire l'auditeur de Bukavu. C'est que le gouvernement, le régime actuel, il fait face à un problème de légitimité et de crédibilité, tant et si bien que tout ce qui vient du régime actuellement est considéré comme étant de la distraction, avec pour objectif de retarder au maximum l'organisation des élections. Donc moi, je mets la déclaration de cet auditeur sur le compte de cela. Nous vivons dans une situation d'illégitimité de l'actuel régime et de la méfiance généralisée de la part de la population, tant et si bien que tout ce qui vient de ce régime-là est pris avec beaucoup de pincettes et sans beaucoup de considération. Donc c'est ça ma réaction.
Alors il y a des gens tout à l'heure qui a parlé des responsabilités du gouvernement, et même vous aussi à l'Assemblée, vous avez cette responsabilité de faire des audits. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enquêter, de faire des contrôles par rapport à ce qui se passe dans la province du Nord-Kivu ou au sein des FRDC?
Absolument. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai fait partie fin 2014 d'une mission qui s'était rendue, une mission parlementaire qui s'était rendue à Beni pour voir de quoi il en retournait par rapport aux égorgements à leur début. Et nous avons fait à cette occasion-là un rapport à la plénière de l'Assemblée nationale, et le bureau de l'Assemblée nationale a écrit au gouvernement pour lui faire un certain nombre de recommandations qui avaient été faites par les députés. Elles sont restées malheureusement lettres mortes. Je me souviens que encore à l'époque où ça chauffait encore à Beni et à Lubero, nous les députés du Grand Nord Kivu, nous avions décidé de boycotter les séances du Parlement tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution à cette situation d'insécurité. Le président de l'Assemblée nationale nous avait reçus. À l'issue de cette rencontre que nous avions eue avec lui, il avait été décidé qu'une plénière soit organisée avec le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, ainsi que d'autres ministres concernés, notamment celui de l'Environnement, pour qu'on en parle. Mais la condition avait été que la séance se passe à huis clos. Elle s'est passée effectivement à huis clos. Nous avons discuté, nous nous sommes dit des choses. Nous avons encore fait des recommandations qui, malheureusement, n'ont pas abouti à quelque chose de concret, parce que ça continue l'insécurité. Donc voilà, nous on a fait notre travail, nous faisons notre travail, mais c'est pas nous qui avons les moyens d'action.
Et lorsque les recommandations ne sont pas appliquées, vous faites quoi? Vous croisez les bras?
Nous ne croisons pas les bras, madame. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous en prendre au ministre à l'occasion, par exemple, d'une motion de défiance. Mais encore que cette motion de défiance, il faut bien qu'elle recueille les signatures pour qu'elle soit débattue. Ça, ce n'est jamais généralement pas un problème. Mais au moment de passer à l'examen de cette motion, ben généralement avec le jeu de la majorité de l'opposition, eh ben nous sommes souvent mis en minorité. Donc voilà la réalité telle qu'elle se passe à l'Assemblée nationale.
Et certains notables du Grand Nord sont pointés du doigt. On dit que vous entretenez des groupes armés dans le Grand Nord, et que les notables du Grand Nord seraient à la base aussi de cette situation.
Ben écoutez, c'est facile d'accuser. C'est très facile d'accuser, je peux vous accuser de tous les maux tels que vous êtes là devant moi. Mais il est plus difficile d'apporter les preuves, donc ça sert à rien d'accuser si on ne sait pas apporter les preuves. Parce que là, j'ai l'air de quoi si je vous accuse de quelque chose sans pouvoir en apporter les preuves? J'ai l'air d'un con, n'est-ce pas? Je me souviens que il y a quelques jours, j'ai même suivi sur vos antennes ici le maire de Beni. Le maire de Beni qui disait que l'évasion spectaculaire de Kangwai qui avait fait, disons, qui s'était soldé par l'évasion de plus de 930 prisonniers, dont de dangereux terroristes, c'était l'œuvre de certains membres de l'opposition. Moi, je n'avais même pas voulu réagir à ces propos, parce que je me disais, voilà, j'imagine que dans les deux ou trois jours qui vont suivre, il va apporter la moindre preuve de ses allégations. Il ne l'a jamais fait, donc moi, je ne sais même pas comment qualifier ces allégations. Donc, je préfère garder ce qualificatif pour moi-même, au risque d'être mal poli.
Merci, Kiro Tchongo. Des anciens, on va prononcer pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Bastien Diamungu Koukouba de la ville de Goma au Nord Kivu. sachant que la majorité présidentielle, famille politique du gouverneur, cherche des pièges pour contourner les élections qui se prennent à l'horizon. Cette déclaration est l'une parmi tant d'autres, telles que les massacres au Kassai, la nécessité des référendums, le manque d'argent à doter à la CENI pour se faire patati patata. Toutefois, parler d'une énième guerre au Nord Kivu n'est pas une actualité, car elle n'y a jamais cessé. Cette déclaration suscite beaucoup d'interrogations car depuis les RCD, les CNDP, les M23, ce sont les mêmes personnalités qui animent ces mouvements. Comme qui dirait, la même équipe mais différentes varèzes pour une fin commune.
Jason, allô, est-ce que vous êtes en ligne, Jason?
Oui, vous m'entendez?
Oui, oui. Est-ce que vous avez suivi la question de l'auditeur, la préoccupation de l'auditeur de Goma? Oui,
j'ai suivi.
Allez-y,
ouais, j'ai suivi. Je pense que le jour que le gouvernement déclare un état d'urgence à l'est du pays et dit qu'il faut repousser les élections à cause de la violence à l'est, on pourra commencer à spéculer dans le sens de l'auditeur. Jusqu'aujourd'hui, par contre, le gouvernement n'a jamais dit qu'il faut repousser les élections à cause de cela. Ils ont trouvé beaucoup d'autres prétextes pour le faire, mais ils n'ont pas utilisé la violence à l'est. C'est au Kassai qu'ils ont dit qu'il faut... on ne peut pas enregistrer tous les enrôler tous les électeurs à cause de la violence au Kassai, mais à l'est du Congo, en Nord Kivu, Sud Kivu, ils ont fait normalement malgré toute la violence qu'il y a à l'est. Donc je pense pour l'instant, il n'est pas encore temps de commencer ce genre d'accusation-là. On peut critiquer le gouvernement beaucoup par rapport au processus électoral et je le fais régulièrement, mais je ne pense pas que à l'heure actuelle cette accusation tient debout. Par contre, sur ce qu'il voulait dire par rapport aux mêmes équipes de groupes armés, quelque part, il a raison. Dans beaucoup de ces groupes armés, on retrouve les mêmes personnalités. Et je pense que par rapport à cela, il faut souligner le manque de justice. Dans le processus politique, dans le processus de paix en RDC, depuis l'accord de Lusaka en 1999, on a toujours privilégié les négociations. Mais on a rarement traduit en justice les gens, comme l'auditeur dit, les gens qui se trouvent à la tête, comme une porte tournante, à la tête des différents groupes armés depuis les années 90. Et je pense qu'il est temps que ces gens-là soient traduits en justice et qu'ils restent en prison. Ces échappements de prison, ces évasions de prison, c'est encore une fois un signe de la faiblesse de l'État congolais. Et c'est très, très grave quand il y a l'évasion de 900 personnes de la prison de Kamwai à Beni. Quand il y a 3000 évadés de la prison de Kinshasa, de Makala, il est évident que ça a un impact néfaste sur le processus politique, sur le processus sécuritaire en RDC.
Alors, le gouverneur alerte l'état-major des FARDC sur la menace de nouvelles guerres qui pointent à l'horizon au Nord Kivu. Jason, comment éviter que cette guerre commence effectivement dans cette province du Nord Kivu?
Bon, je pense qu'il est vrai qu'il faut rester vigilant par rapport à l'implication des forces étrangères dans la politique congolaise. Ça c'est sûr. Dans l'histoire congolaise, il est très, très rare qu'un groupe armé puisse déstabiliser le pays entier sans avoir un appui quelconque extérieur. Mais je pense que la priorité, c'est quand même de responsabiliser l'État congolais, de vraiment se poser des questions par rapport au processus de démobilisation, par rapport à l'armée, la responsabilité de l'armée. Qu'est-ce qui se passe avec le Scola 1, Scola 2, les opérations militaires? Est-ce qu'ils font ce qu'ils devraient faire? Est-ce que l'argent est bien géré? Est-ce que les opérations sont bien gérées? Et enfin, de lier tout ce qui se passe à l'Est avec la politique nationale, parce que je pense que c'est là où il y a beaucoup de pertinence avec ce qui se passe à Kinshasa, le processus électoral, le processus constitutionnel. Je pense vraiment qu'il y a une grande responsabilité de l'État congolais, il ne faut pas l'oublier.
Merci Jason Stern. Monsieur le gouverneur, sachant qu'une guerre se profile à l'horizon, qu'une guerre s'est préparée au Nord Kivu, pourquoi avoir levé la mesure du couvre-feu instauré depuis le 11 juin dans les villes de Beni et Butembo?
Oui, la mesure de couvre-feu, madame, ne concernait pas
la menace de la guerre. Ça concernait effectivement les détenus qui se sont évadés de la prison de Kangwaï. Et là, il s'agissait effectivement de la même nuit de l'évasion des détenus. Il fallait se rassurer qu'il n'y a personne d'autre qui circule la nuit pour que nous ayons la possibilité de mettre la main sur tout ce qui bouge, comme on le dit souvent dans les jargons. Voilà pourquoi nous avions décrété le couvre-feu. Et étant donné que nous avions récupéré de bonnes centaines de ces gens-là, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas continuer à limiter la circulation des personnes. Voilà pourquoi nous avons, au niveau du comité de sécurité, évalué qu'il fallait lever cette mesure.
Malgré la menace dont vous avez fait allusion dans votre message, menace de guerre, vous estimez que ça n'a rien à voir avec le couvre-feu?
La population est un ingrédient essentiel dans les renseignements. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir les meilleurs agents de renseignement plus que la population. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait cette mesure que nous avions prise pour que nous puissions conjuguer les facteurs renseignement visible aux facteurs renseignement population de manière à maximiser les chances de devoir mettre fin à cette nouvelle guerre qui voulait commencer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons levé effectivement cette mesure.
Alors, vous allez conclure, monsieur le gouverneur. Qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce que vous allez faire pour éviter qu'une guerre n'éclate dans votre province?
La meilleure manière d'éviter une guerre, c'est de la connaître, de connaître qu'elle se prépare. Vous savez, l'anticipation, c'est la meilleure arme. Lorsque vous connaissez quelque chose, vous savez bien la combattre. C'est quand vous ne la connaissez pas qu'elle vous surprend. Je vous informe que le 14 janvier, lorsque nous avions fait l'alerte sur la possibilité pour le M23 d'entrer, eh bien, toutes les dispositions ont été prises. Et lorsque le M23 est entré par la centrale hydroélectrique de Matébé, eh bien, vous avez vu comment ils ont été swappés, si on peut utiliser les termes de la communication. Et en un jour, on les a neutralisés et l'Ouganda a reçu les résidus de ceux qui ont pu fuir vers ces pays-là. Donc,
alors, concrètement, vous proposez quoi?
Non, ce que je propose ne doit pas se dire dans les médias, parce que les stratégies, lorsqu'elles se mûrissent dans les centres stratégiques, elles ne doivent pas être communiquées, sinon l'ennemi est en train de nous suivre en ce moment.
L'alerte a été faite dans les médias. Merci, monsieur le gouverneur. On va considérer cela comme votre conclusion. Monsieur Kiro, vos propositions ou vos solutions pour éviter un désastre à la province du Nord Kivu?
Je crois qu'il faudrait d'abord redéfinir le rôle des services de renseignement, parce qu'il n'est pas normal que nous réagissions toujours a posteriori. Nous devons être capables d'anticiper. Donc les services de renseignement doivent être renforcés, ainsi que nous estimons que la collaboration entre les FRDC et la population doit être renforcée. Et la meilleure manière de renforcer cette collaboration, c'est de faire naître un lien de confiance mutuelle. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'occasion de tout ce qui se passe là-bas, à l'occasion de toutes ces... Comment dire, à l'occasion de tous ces affrontements, c'est malheureusement la population qui paye les frais, parce qu'il y a certains militaires indisciplinés qui s'évertuent à piller des téléphones, des boutiques, des chèvres, etc. Je crois que si on met un peu plus de discipline dans nos FRDC, la population sera plus en confiance et sera amenée à mieux collaborer avec les forces armées. Évidemment, il faudrait absolument que les forces armées soient renforcées en termes de nombre et de logistique. Il faut aussi, je crois que la police nationale doit aussi être renforcée de manière à ce qu'elle puisse participer aux patrouilles.
Merci, honorable Kiro Tsongo. Jason Sears, un mot en guise de conclusion. Jason, vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu Jason Sears. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté, Alain Hung, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, Kelly Nkutoto au micro. La prise de son était assurée par Dieudonné Nyankasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.